Voilà. Donc évidemment, le positionnement de la question autour des extraterrestres, qui est notre sujet de ce soir, notre civilisation est-elle la seule? Existe-t-il d'autres planètes avec la vie? C'est une question récurrente qui revient sur de nombreux sites internet. Si oui, existe-t-il d'autres civilisations plus avancées que la nôtre? Cherche-t-elle à prendre contact avec la nôtre? Donc on va brosser un rapide portrait pour dire d'abord qu'il est parfaitement impossible de faire le tour de toute la production en littérature, en livres, en DVD, en vidéo, sur le sujet des ovnis, des extraterrestres, etc. Il faudrait y passer une vie entière et encore. Et ce n'est pas l'objet de cette causerie ce soir, si vous voulez. Si vous cherchez des documents, bah, vous aurez qu'à creuser, mais. Ce soir, on va essayer de se donner quelques éléments de discernement spirituel chrétien. Peut-être d'abord réfléchir sur la notion d'OVNI, en anglais UFO, Unidentified Flying Object, un concept qui date des années 47. En français, on utilise le sigle OVNI, objet volant non identifié, et par analogie au contact avec les véhicules prétendument cosmiques, les soucoupes volantes, dont l'origine remonterait à des civilisations extraterrestres. On parle aussi de prétendues rencontres avec leurs passagers, appelées souvent EBE, entités biologiques extraterrestres, E.T. comme le personnage que vous connaissez, ufonautes, humanoïdes, cosmites et étrangers, en anglais aliens. Il paraît qu'ils ont fait de la publicité pour la conférence de ce soir dans je ne sais plus quel mensuel ou hebdomadaire. Et un paroissien qui le reçoit a vu ça. Il m'a dit, j'ai cherché la signification des mots qu'il y avait, j'ai pas très bien compris et j'ai eu du mal avec mon dictionnaire. Évidemment, c'est c'est des termes qui sont vraiment très particuliers. Si vous vous intéressez à une méthodologie pour l'étude du phénomène ufologique, donc il y a un article d'Éric de Guillaume, La zététique appliquée à l'ufologie. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que la zététique, ce mot bizarre, hein, du grec zétain qui veut dire scruter, chercher à discerner les fondements. Hein. Donc je vous ai mis la référence sur leur site. Alors ils ont quelquefois des choses un peu forcées, mais en même temps c'est assez sain d'essayer de pousser la critique au plus loin, quoi. Donc ils ont des articles de ce point de vue qui peuvent être très intéressants. Dans le milieu des médias people, on est vraiment l'objet d'un matraquage et d'un formatage continuel. Science et vie de septembre 2013, titre, Les scientifiques en sont convaincus, nous ne sommes pas seuls. Les arguments qui changent la donne. Ou encore un an plus tard, septembre 2014, Voie lactée, 9 milliards de planètes habitables, etc. On nous resserre le plat sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Les sites internet, donc, ne sont pas un reste, peuvent donner lieu à des délires non dissimulés. En voici un, par exemple, côté russe, le Premier ministre Medvedev, après avoir complété une entrevue sur caméra le 7 décembre 2012 avec des journalistes à Moscou, a continué à répondre aux journalistes et a fait quelques commentaires sans réaliser que ce micro était toujours ouvert. Et un journaliste lui a ensuite demandé si le président avait en main les dossiers secrets sur les extraterrestres. Quand il a reçu une mallette, la mallette nécessaire pour activer l'arsenal nucléaire de la Russie. Et Medvedev a répondu, avec la mallette contenant les codes nucléaires, le président du pays reçoit un dossier spécial top secret. Ce dossier, dans son intégralité, contient des informations au sujet des extraterrestres qui ont visité notre planète. Parallèlement à cela, il reçoit un rapport des services spéciaux absolument secrets qui exercent un contrôle sur les extraterrestres sur le territoire de notre pays. Voilà, on est vraiment en plein délire. Côté américain, l'ancien conseiller du Pentagone, Timothy Good, auteur de Above Top Secret, Le Covert mondial des ONI a déclaré en février 2012 que l'ancien président Dwight Eisenhower avait tenu trois réunions secrètes avec des extraterrestres qui étaient nordiques en apparence et dans lesquelles un pacte avait été signé pour garder secret leur agenda sur la Terre. Bon, etc., etc. Des perles de ce genre, vous pouvez en trouver un certain nombre. Voilà, donc pour un petit peu positionner le questionnement ce soir. On va s'attaquer maintenant au point 2. Quelle réponse chrétienne, hein, pouvons-nous donner à la question « Sommes-nous seuls dans l'univers ?» Il y a un livre qui s'appelle « Les extraterrestres existent-ils » aux éditions Quasar, un livre de 2013. Petit livre, 40 pages. Et dans la postface, M. Philippe Quentin, qui est professeur à l'Université de Bordeaux, après avoir fait un rapide historique des réponses apportées à la question au cours de l'histoire, écrit ceci. Dans le parcours auquel il nous invite dans ce livre, le père Guy Consolmagno, un jésuite, qui est astronome au Vatican, dans le parcours auquel il nous invite dans ce livre, tout part de l'intuition que nous ne sommes pas les seuls êtres intelligents dans l'univers. Pour autant, malgré l'incroyable progrès de nos connaissances, sujet que l'auteur développe avec talent, reviennent comme un leitmotiv, ponctuant tel le cœur antique l'avancée du discours, ces quelques mots: nous ne savons pas. Ceci, en soi, nous situe dans une démarche proprement scientifique. Notre ignorance est un état de fait, certes, mais elle est docte ignorance, dirait Nicolas de Cuse, étant accompagnée et comme éclairée par un regard acéré sur le travail accompli, et constitue certainement un aiguillon pour avancer plus loin en eau profonde. En regard de ces considérations, l'auteur s'appuie fermement sur deux données théologiques de base. Le principe de plénitude évoqué plus haut et le caractère complet et définitif de la révélation selon laquelle Dieu aime de façon inaltérable tout être humain, à la liberté de l'homme de l'accepter ou non. La première conviction souligne l'incohérence d'une limitation a priori des capacités créatrices de Dieu, tandis que la seconde affirme avec saint Paul qu'aucune créature ne saurait nous séparer de l'amour de Dieu manifesté dans le Christ Jésus notre Seigneur. Alors, sommes-nous seuls? Peut-être bien que non. En tout cas, pour un tenant lucide de la foi catholique, ne pas être seul au monde ne saurait constituer une source d'inquiétude. Après tout, pour ce qui concerne son propre salut, on peut prendre à son compte ce que Jésus disait à saint Pierre au bord du lac de Tibériade: que t'importe, toi, suis-moi. Rien n'empêche en effet de penser que Dieu, de son éternel présent, ait pu créer d'autres univers complètement étrangers aux nôtres et sur lesquels nous n'aurons jamais d'informations, n'ayant avec eux aucune connexion. Mais imaginer de tels univers n'a strictement aucun intérêt et ne pourrait éventuellement que nous détourner de la réalité en tant que la vie temporelle, tant de la vie temporelle que de la vie éternelle. Vous voyez cette affirmation, rien n'empêche de penser que Dieu a créé d'autres univers, mais sur lesquels nous n'aurons jamais prise, jamais aucune information, aucune connexion. Et donc, se lancer dans un trip à ce sujet, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Si vous voulez une réflexion de type plus vulgarisation, j'insère ici, avant de reprendre le fil, un petit article du père Yannick Bonnet. Père Yannick Bonnet est un prêtre du diocèse de Puy-en-Velay, je crois, qui a été d'abord marié, père et grand-père, puis veuf, et qui s'est dirigé vers le sacerdoce, et qui écrit des petits billets comme ça à droite à gauche. Et dans un petit billet à L'Homme Nouveau de 2008, il écrit: Il me semble que cette fiction est radicalement hétérogène avec la révélation chrétienne. La révélation chrétienne nous parle de ce Dieu auquel notre seule raison nous permet d'accéder avec certitude. La contemplation de la création conduit logiquement à la conviction de l'existence du Créateur. On peut le déduire par notre seule raison. Ce Dieu nous révèle qu'il est amour, unique mais en trois personnes, et qu'il a créé par amour des êtres doués de libre arbitre, les anges et les hommes. C'est grâce à cette caractéristique du libre arbitre que ces créatures peuvent, par choix délibéré, aimer et participer à la vie divine pour laquelle ils ont été créés. La révélation nous dévoile que dans le plan de Dieu, il y a un lien mystérieux entre cette accession à la vie divine proposée aux anges et aux hommes. Les uns, les anges, sont des esprits immatériels, les autres, les hommes, des êtres de chair et d'esprit. Quant à Dieu, en Jésus-Christ, s'est fait homme tout en restant le Verbe éternel, préexistant à la création des anges, des hommes et de tout l'univers. On ne voit pas pourquoi Dieu, qui est lumière et vérité, nous aurait caché l'existence d'une troisième catégorie d'êtres doués d'intelligence et de volonté. C'est important, ça, comme réflexion. On ne voit pas pourquoi Dieu, qui est lumière et vérité, nous aurait caché l'existence d'une troisième catégorie, en dehors des anges et des hommes, d'êtres doués d'intelligence et de volonté, susceptibles d'avoir des contacts avec nous, et donc un impact sur notre vie terrestre, dont le Christ nous a dit que sa seule fonction est de nous faire cheminer vers la vraie vie, la vie éternelle. Conclusion, les extraterrestres sont une pure fiction, n'ont aucune réalité. L'intérêt suscité par leur existence supposée chez certains ne peut que les détourner du réel et de la recherche du chemin du salut. Bon, voilà, ça c'est un petit billet, si vous voulez, basique sur la question. Si on reprend les réflexions sur le livre du Père Console Magnot, dont le titre, donc, on l'a dit, Les extraterrestres existent-ils? Voici quelques extraits où vous le voyez, j'ai mis en caractère gras ce refrain donc, qui revient régulièrement, nous ne savons pas. Le premier et le plus important fait auquel nous ayons à faire face, dès lors que nous nous posons la question de l'intelligence extraterrestre, et celui-ci, nous ne savons pas. De toutes les planètes que nous avons découvertes en orbite autour d'autres étoiles, il n'est pas clairement établi que l'une d'elles offre un lieu adapté à la vie telle que nous la connaissons. Sur aucune d'elles, pas plus d'ailleurs, pour rester plus proche de nous, que n'importe où dans notre propre système solaire, nous n'avons trouvé la preuve complète et irréfutable que la vie ait pu démarrer en quelque autre endroit qu'ici sur la Terre. Pour autant que nous sachions avec certitude, nous pourrions bien être seuls. Quand bien même la vie serait possible dans tous ces lieux, la découvrir effectivement serait très difficile, compte tenu de l'état actuel de nos moyens techniques. Même s'il existe plusieurs endroits dans notre système solaire où la vie pourrait être trouvée, ce n'est qu'en un seul lieu, la planète Terre, qu'elle a été trouvée jusqu'à présent. Nous ne pouvons pas encore dire si la vie est chose commune ou rare. Nous ne savons pas. Plus loin, page 27, dans son livre, le résultat de toute cette discussion est simple, il n'y a rien dans les Saintes Écritures qui confirme ou infirme la possibilité d'une vie intelligente ailleurs dans l'univers. Nous ne savons pas. Dans la Bible, il n'y a rien. Nous sommes libres de spéculer sur le sujet, mais cette spéculation est limitée par deux faits que nous reconnaissons comme des points centraux de notre foi. Tout d'abord, tout ce qui pourrait exister ailleurs est la création d'un Dieu d'amour. Ensuite, indépendamment de la question de savoir si ce que Dieu aurait ou n'aurait pas créé ailleurs, rien de ce qui existerait ailleurs ne peut contredire ce qu'il a fait ici pour nous. Alors ça, c'est très intéressant, ces deux affirmations. Hein, je reprends la première. Tout ce qui pourrait exister ailleurs est création d'un Dieu d'amour. Donc vous allez voir que tout ce qu'on découvre sur les ovnis, c'est en parfaite contradiction avec cette affirmation. Et deuxième chose, indépendamment de la question de savoir ce que Dieu aurait ou n'aurait pas créé ailleurs, rien de ce qui existerait ailleurs ne peut contredire ce qu'il a fait ici pour nous. Le dessinateur américain de bande dessinée, Walt Kelly, qui est mort en 1973, a peut-être fourni la vision la plus pertinente du débat à propos de l'intelligence extraterrestre. Au début des années 70, Pogo, personnage d'un de ses ouvrages, proposait cette réflexion. Il n'y a que deux possibilités. Ou bien il existe la vie ailleurs dans l'univers, qui est plus intelligente que la nôtre, ou bien nous sommes les êtres les plus intelligents de l'univers. Dans les deux cas, cette pensée a le grand pouvoir de nous rendre modestes. La seule éventualité d'une vie intelligente ailleurs souligne le caractère humain, ou au moins presque humain, des observations astronomiques les mieux établies sur l'immensité de l'univers. Pour des catholiques, faute de réponse certaine, l'étude de cette question invite à retrouver la place de l'homme. Elle devrait nous conduire à nous concentrer sur la contemplation de la grandeur de Dieu et de son amour tout particulier pour nous. Et enfin, pour terminer sur la réflexion sur cette question, un autre point de vue récent, qui est celui du père José Funès, qui est directeur de l'Observatoire astronomique du Vatican, encore actuellement. Après l'annonce par la NASA de la découverte de Kepler 452b, une planète semblable à la Terre, il a expliqué vendredi 31 juillet 2015 à l'agence France-Presse ne pas croire à une rencontre avec des extraterrestres. Pour ce jésuite argentin, l'existence d'une vie et d'une forme d'intelligence sur Kepler 425b est probable, même s'il reste sceptique. Il rappelle qu'il n'en existe aucune preuve et que nous ne saurons sans doute jamais, en raison des distances qui séparent les deux planètes. Peut-être serai-je contredit demain, mais je ne crois pas que nous arrivions un jour à rencontrer un monsieur Spock, plaisante-t-il en faisant référence au personnage de la série Star Trek. Pour l'instant, sur le fait qu'il parle en son nom propre, en l'absence de position officielle du Vatican sur ces sujets, le père José Funès affirme ainsi que jusqu'à ce que nous ayons un résultat concret, accepté par la communauté scientifique, il est inutile de se lancer dans des commentaires hasardeux. Et même si une vie intelligente en dehors de la Terre était découverte, il n'y verrait pas de contradiction avec la foi chrétienne. D'après lui, l'incarnation de Dieu est un événement unique dans l'histoire de l'humanité et même de l'univers. Et il ne peut exister un autre Jésus. Important ça, hein. Dieu s'est fait homme en Jésus, mais sur notre terre, en Palestine, il y a 2000 ans. Et il n'a pas choisi un Français, un Italien ou un Argentin, il a choisi un Juif, précise-t-il en souriant. Il tient cependant à saluer une bonne nouvelle dans la découverte de l'exoplanète. Ce que j'ai appris de tout cela, c'est que la recherche d'une autre vie dans l'univers nous aide à nous comprendre mieux, à nous rendre compte du rôle qui est le nôtre dans cet univers, à comprendre ce que signifie la vie, ce que veut dire être intelligent, ce qu'est une civilisation. L'observatoire astronomique du Vatican qu'il dirige se trouve à proximité de la résidence d'été du pape à Castel Gandolfo, dans les monts Albins, près de Rome. Des scientifiques y mènent des recherches sur les météorites, les galaxies, l'origine du monde et le Big Bang. Une activité qui ne va pas à l'encontre de ce que dit Dieu, car l'Église promeut la science, une science de qualité. Voilà, on n'a pas peur de la recherche scientifique. Mais en même temps, savoir ce qu'on affirme, comment se situe. Donc voilà quelques éléments de réflexion. Ça ne vous apporte pas, peut-être pas d'éléments très très neufs, mais en même temps, je pense qu'il faut quand même essayer d'intégrer quelques arguments pour pouvoir les partager avec ceux qui poseraient la question, quoi, quand on en débat. Alors, on va aborder le point le plus complexe de la question des ovnis, qui est une interprétation de l'expérience ovni, donc comme phénomène occultiste et spirite, en le prenant dans le livre du père Alexander Posacki, dans son livre Psychologie et Nouvel Âge, traduit en deux, et édité en 2009, où il a deux chapitres, le premier étranger. Mais de quel monde? Et le second, les étrangers comme ancien Dieu et nouveau Messie. Donc j'ai mis ici quelques extraits. Vous allez voir, c'est quand même assez costaud. Et on va, encore une fois, on va pas tout lire, parce que ce serait relativement indigeste. Je vous propose d'aller à la page 3. À la fin. La page 3, pour prendre le paragraphe « La violence comme carte de visite ». Ce qui dévoile un peu le mystère, c'est que les êtres ovnis agissent à travers la violence. Parfois, il s'agit plus d'une violence sexuelle que d'une violence qui s'exprime par des rapts en vue d'expérimentation et de recherche. Au cours des dernières années, on relève beaucoup de preuves qui suggèrent que certains rapts faits par les ovnis se rapprochent davantage des abus sexuels que des recherches scientifiques sur la génétique. L'hostilité montrée aux hommes dévoile la nature probablement démoniaque de ces êtres. Ils utilisent la contrainte, la violence, en influençant l'intelligence et la volonté des humains, à l'aide de la violence physique ou de la télépathie. On connaît aussi des histoires suggérant que des êtres étrangers ont enlevé des personnes, comme on vient de le mentionner. Il existe une riche littérature consacrée aux disparitions mystérieuses. On rencontre aussi des attaques directes des étrangers contre des humains, qui souvent aboutissent au meurtre de ces derniers. Bien que le thème de la lumière se répète sans cesse, comme dans l'ancien occultisme d'ailleurs, dans le luciférisme, l'activité des êtres ovnis est souvent très ténébreuse et terrifiante, telles ces preuves de l'activité hostile des êtres intelligents connus. Premièrement, des cas avec des monstres terrifiants. Deuxièmement, des mutilations cruelles d'animaux. Troisièmement, des expériences terrifiantes des personnes enlevées. Quatrièmement, des attaques avec des armes en forme de faisceaux de lumière. Cinquièmement, visite d'horribles hommes en noir. Bon, évidemment, il faut avoir lu toute la littérature pour synthétiser, si vous voulez, ce type d'affirmation, quoi. Selon l'interprétation plus optimiste de Carl Jung, les contacts avec les cosmites sont une projection de l'inconscient. Les contacts avec les ovnis sont en effet étonnamment absurdes, privés de finalité ou de tâche quelconque. Cela fait penser à la perception du monde avec des personnes hypnotisées. Ça ressemble à la rencontre avec des personnages du monde de l'inconscient, avec des symboles d'un monde inconnu ou avec le monde souterrain du chaos et de l'obscurité. La ressemblance avec les rites de l'initiation, religieux ou occultiste, remarquée dans ces rencontres, peut donc être interprétée de deux manières. Ou bien c'est le contact avec un symbole irrationnel, ouvert aux significations, contact motivé par le désir d'un monde nouveau magnifique, un peu à la façon d'Aldous Huxley. Ou bien c'est le contact avec le monde souterrain, chaotique, spirite et démoniaque. Donc, ou bien contact avec symboles irrationnels, ouvert à des significations multiples, et à tout un désir de quelque chose de mieux, ou bien c'est un contact assez direct avec le monde diabolique. Les images paraphysiques sont seulement une projection du monde psychique, où on ne peut pourtant pas exclure le facteur démoniaque. Certaines personnes ayant un contact avec les étrangers ressemblent souvent aux médiums spirites. De même que les matérialisations et les dématérialisations bizarres des objets prétendus volants ressemblent, pardon, à des phénomènes analogues au cours des séances spirites. La ressemblance phénoménologique du contact avec les cosmites et celle des expériences spirites, aussi dans la version channeling, se dessine nettement si l'on reconstruit le schéma général de l'expérience. Premièrement, l'univers, le cosmos, se trouve sous contrôle d'êtres soi-disant bienveillants, des esprits, placés très haut sur l'échelle de l'évolution. Deuxièmement, ces êtres sont censés nous nourrir d'une façon désintéressée avec les ressources illimitées de leur expérience, de leur connaissance et de leur puissance. Troisièmement, si nous voulons nous ouvrir à cette connaissance et à cette puissance, et montrer une sorte d'obéissance, alors ces êtres nous guideront dans l'évolution spirituelle orientée vers la perfection ou même la divinité. Donc vous voyez que là on est totalement ailleurs que dans la perspective chrétienne. On est dans la perspective New Age une fois de plus. Pourquoi une interprétation démonologique? Non seulement les incertitudes décrites ci-dessus, les pistes suggérant l'initiation religieuse ou le fait de violence, mais encore la ressemblance de certains types anthropoïdes, des cosmites, avec des représentations des démons du Moyen-Âge, autorisent à expliquer les phénomènes ovnis par des actions cachées et sournoises des démons. Et dans le sens contraire, on assiste ici à une sorte de démythologisation parascientifique ou pseudo-scientifique du monde des démons à l'aide du monde des cosmites. C'est un peu compliqué, peut-être, non? L'interprétation démonologique est en plus rendue valable par le fait que de nombreuses relations sur les ovnis ressemblent à l'histoire des possessions démoniaques décrites dans la vie des saints. L'enlèvement par des démons a été relaté, par exemple, dans la vie de saint Neil Sorsky. Des contacts semblables aux rencontres avec les ovnis ont été le fait pour saint Martin de Tours. Le prêtre orthodoxe, le père Séraphim Rose, a remarqué que dans de nombreux témoignages, l'aspect extérieur des êtres étrangers est identique à la description des démons dans la littérature spirituelle orthodoxe. Il a rappelé que la description de deux cas d'enlèvement par les diables en Russie au XVe et XIXe siècle semble identique à celle de rapts contemporains par des extraterrestres. Voilà, donc effectivement, si j'ai choisi cette interprétation, c'est aussi parce que, bon, de par mon ministère, je suis en contact avec un peu avec cette réalité. On va peut-être passer plusieurs. On va se rendre en bas de la page 4, si vous voulez. La propagation de l'idéologie du Nouvel Âge. Oui, ou si vous voulez prendre à gauche, juste à gauche de ce titre, on a on ne saurait dire. Pardon, on va prendre un peu plus haut après les crochets. Un aspect intéressant des enlèvements dans les récits, donc des personnes qui racontent, hein, consiste en une sorte de changement initiatique qui touche non seulement à la transformation de la conscience, mais aussi celle des idées sur le monde. Il emploie souvent ce terme, idées sur le monde. C'est un peu équivalent, si vous voulez, à idéologie, mais en fait, c'est une espèce de représentation de l'univers qui provient de cette réalité. Nous avons affaire à la découverte d'une double identité des victimes, celle de la victime et celle des étrangers en même temps. D'ailleurs, souvent, on accède à cette identité par la thérapie sous hypnose, qui en elle-même est déjà problématique. On ne saurait dire toutefois clairement si la transformation de la conscience vers une double identité est un effet secondaire de la résolution d'une expérience traumatisante, ou bien si elle constitue une caractéristique immanente de ce phénomène. Une personne enlevée, Sheila, a reconnu son lien avec des êtres étrangers au moment où elle a regardé le chef des étrangers droit dans les yeux et s'est soumise à son pouvoir. Ainsi a-t-elle adopté les idées sur le monde basées sur une profonde préoccupation pour l'écologie qui lui ont été suggérées alors. Une autre enlevée, Catherine, après avoir noué des liens avec les étrangers, a compris combien sont forts et entretissés les liens entre toutes les manifestations de la vie sur notre planète. On l'a rendue consciente aussi de la question, si difficile à comprendre pour les Occidentaux, de la continuité qui se manifeste dans la réincarnation. Concept qui n'a rien de chrétien. Une autre enlevée, Lee, a été soumise à une profonde régression hypnotique qui a révélé que Lee avait été enlevée à bord d'un ovni alors qu'elle était jeune adolescente. Là, on avait mis une sonde dans son vagin et prélevé un tissu, probablement un ovule. 10 jours plus tard, elle était partie pour quelques mois en Inde afin d'étudier le bouddhisme tibétain. Comme elle le constate elle-même, l'expérience avec l'OVNI a causé chez elle un traumatisme sexuel, mais a suscité aussi en elle un prétendu développement spirituel et a développé la sensibilité à tout ce qui est vivant, depuis les insectes jusqu'aux êtres d'autres dimensions et systèmes planétaires. Donc vous voyez tout le mélange qu'il peut y avoir. Elle a vécu, comme elle le constate, un développement de la conscience unique et agitée, pour laquelle elle est très reconnaissante aux forces qu'elle ne sait même pas nommer. Elle a ajouté que le bouddhisme tibétain reconnaît en grande partie de telles rencontres spirituelles et la conscientisation des personnes enlevées. Scott, abusé par des étrangers, a senti depuis leur présence permanente dans son esprit. Et il a constaté ensuite « mon ouverture par rapport à eux » a débloqué aussi certains mécanismes en moi. Cette entrée dans la sphère de l'esprit s'est produite sans aucune préparation, et pourtant, les yogins travaillent bien dur pendant de longues années pour obtenir un niveau spirituel plus élevé. Donc on est en pleine confusion entre le spirituel, les expériences paranormales, les initiations orientales. Voilà. Ce qui est étonnant ici, c'est la juxtaposition de la violence avilissante, que rien ne justifie, et le développement ou le pseudo-développement spirituel de type écologique, bouddhique, ou bien strictement occultiste, médiumnique ou chamanique. Du point de vue chrétien, on peut supposer ici une intervention démoniaque, ce qui est suggéré aussi par le fait de la double identité qu'on peut interpréter comme un phénomène de possession démoniaque ou d'une certaine démonisation. Elle se réalise dans le cas d'une initiation étrange qui ressemble à une initiation occultiste ou bien spirite, typique des expériences du Nouvel Âge. Cette possibilité est indiquée par le phénomène même de channeling médiumnique. Beaucoup de personnes enlevées, entre guillemets, vivent une sorte d'extase. Et cela parce qu'à travers l'expérience et sa répétition dans les transes de la création dans le cosmos, elle s'ouvre en quelque sorte à la source divine, entre guillemets. Les enlevés ressentent une unité extraordinaire avec tous les êtres et de toutes les créatures, le lien avec la nature et les esprits, et aussi avec les animaux, car les étrangers peuvent se manifester sous forme d'animaux, comme les esprits dans le chamanisme. À travers les interactions avec les étrangers, les personnes enlevées s'approcheraient, dit-on, des racines spirituelles, cosmiques, de la lumière divine. Pour David, l'enlevé, la spiritualité des Indiens, le chamanisme, les forces de la nature, les réalités différentes, l'énergie qui, le karaté, les expériences de la réincarnation et de l'enlèvement sont des pièces d'un puzzle total. Le lien direct se fait souvent à travers le contact visuel. Les enlevés confirment maintes fois qu'en regardant dans ces grands yeux omniscients des cosmites, ils font l'expérience de l'amour qui embrasse tout. Ce contact est pour eux bien plus fort qu'un lien quelconque entre les humains. Donc, vous voyez où on se promène Bon, j'espère que je ne vous bassine pas trop avec tout ça. Alors, on peut prendre page 5, si vous voulez, la question du discernement spirituel chrétien. Où le père Kozaki affirme ceci, célèbre pour ses recherches dans le domaine de l'occultisme, le père Séraphine Rose, moine orthodoxe, mort en odeur de sainteté. C'est bien dit pour quelqu'un qui s'appelle Rose. Mort en odeur de sainteté. Donc le père Séraphine Rose est convaincu que les raptes contemporains par les ovnis sont une forme de possession démoniaque décrite dans la tradition depuis de longs siècles. Il constate que les hommes contemporains, fiers de leur illumination et de leur sagesse, sont de nouveau confrontés à l'expérience d'un contact avec l'illusion démoniaque. Mais ils n'ont plus les clés, les idées chrétiennes sur le monde qui leur permettraient d'évaluer ce phénomène de façon juste. Il est difficile de résister à la conclusion qu'il s'agit de démons ou de fantômes créés par eux. Alors voilà quelques facteurs qui peuvent l'indiquer. Premièrement, les étrangers ont l'aspect des démons tels qu'ils apparaissent dans les descriptions connues de la tradition ecclésiale. Ils semblent des êtres matériels, mais en même temps ils sont transparents ou lumineux comme immatériels. Conformément à l'enseignement de l'Église, les démons sont des êtres spirituels, des anges déchus. Ils se nourrissent des passions humaines, mais eux-mêmes sont déchus et pervers. Durant la plupart des enlèvements, les gens ont été abusés sexuellement. Deuxièmement, selon la plupart des faits rapportés au cours des examens, les étrangers infligent une douleur aux enlevés et leur font peur. Dans la littérature spirituelle, surtout dans les vies des saints, on peut trouver de nombreuses descriptions des attaques physiques des démons contre les chrétiens. Si les étrangers avaient vraiment été des extraterrestres spiritualisés du cosmos et non des démons, ils auraient sûrement épargné aux gens les souffrances. En réalité, ils ne veulent pas adoucir la douleur physique ou psychique, mais au contraire l'infliger aux victimes arrêtées. Troisièmement, les étrangers suscitent le sentiment de peur et de dégoût qui accompagne les humains au cours de la première rencontre. Ils disparaissent seulement après la soumission spirituelle de l'homme à ses ravisseurs. Ce sont des manipulations démoniaques typiques, connues de la tradition chrétienne. Les démons tendent méthodiquement à vaincre le dégoût naturel que leur proximité suscite aux humains et à le remplacer par la confiance à leur égard. Quatrièmement, les effets spirituels des contacts avec les étrangers sont complètement anti-chrétiens. Les personnes enlevées abandonnent la tradition universelle du christianisme orthodoxe en pratiquant une spiritualité fausse, apparentée à la pseudo-religiosité du Nouvel Âge, qui leur est transmise par la voie de l'illusion démoniaque. Ces gens ne se trouvent plus sur le chemin de perfectionnement et de transformation de la personne humaine, chemin chrétien, centré sur Dieu, théocentrique, soutenu par la grâce de Dieu, par l'Esprit Saint. De nouvelles idées sur le monde, une nouvelle idéologie, les amènent à l'extinction de la personnalité, à la fois en la nécessité de se fondre dans l'un, qui constitue la compréhension païenne du paradis et du salut. Alors, il y a un deuxième chapitre du Père Posaki, les religions en tant que culte de l'OVNI. On va se rendre page 6, si vous voulez. Le culte de l'OVNI, une religion nouvelle. Différents cultes des ovnis présentant un caractère nettement religieux ont fait leur apparition. Parmi ces cultes, on compte le plus souvent Entrevis, la société Aetherius, Aetherius Society, l'Académie des sciences unarieuse. Vous avez peut-être jamais entendu parler de ça, comme moi d'ailleurs. Unarius Academy of Science, le mouvement raëlien, donc là on connaît mieux en France, et le mouvement Urantia. Selon différents groupes de ce type, les civilisations extraterrestres et leurs habitants réunissent les traits caractéristiques spécifiques, des traits spécifiques. Premièrement, le trait peut-être le plus important des groupes qui rendent à leur manière le culte aux cosmites est l'acceptation de la transcendance des cosmites. Cela s'exprime dans des expressions mettant en relief des caractéristiques absolues des habitants d'autres planètes. Ils savent tout, omniscience. Ils ont une perfection physique, perfection psychique, technique, scientifique, et aussi disposition à sauver les terriens. La transcendance des cosmites est soulignée par leur dénomination Elohim, frère de la lumière, guide céleste, etc. Pour ça qu'il faut toujours, quand on a accès à des révélations privées, il faut toujours regarder les mots employés, parce qu'on voit ces mots-là réapparaître. Deuxièmement, un autre trait, c'est la révélation des cosmites aux fondateurs. Des extraterrestres mystérieux se révèlent dans un lieu désert à un fondateur solitaire d'un groupe à cause de ses traits caractéristiques personnels. Cette rencontre porte du fruit par le canal d'une relation, c'est-à-dire d'un témoignage écrit par le fondateur et qui devient livre sacré du groupe, relation au sens relatio en latin, mise par écrit de la révélation qu'il reçoit. Ça devient le livre sacré du groupe. Troisièmement, le message transmis par les cosmites au fondateur élu d'un groupe contient habituellement une critique de la société terrestre avec des accents écologiques, destruction de la nature et catastrophico-apocalyptique, destruction de la nature comme un des facteurs qui annonce l'extermination de la race humaine. Quatrièmement, il n'y a donc que les cosmites qui peuvent sauver l'humanité. Dans des groupes ufologiques naissent alors des attentes messianiques, l'attente d'un salut imminent, un caractère millénariste qu'on retrouve déjà tout au long de l'histoire de l'Église. C'est-à-dire d'un règne de 1000 ans, d'un sauveur, etc. Mauvaise interprétation d'un passage de l'Apocalypse. Cinquièmement, c'est possible parce que les cosmites représentent une super technique infiniment supérieure à la terrestre, d'où la fascination par la technique, la mise en relief du caractère scientifique de la religion, l'intérêt pour la science et l'emploi d'un argot technico-scientifique spécifique. Sixièmement, il faut souligner que les fondateurs des groupes ufologiques avaient eu des expériences mystiques antérieures au sens de mysticisme large, conçu comme toute expérience extatique, y compris occultiste, ésotérique ou spirite. Cette dernière caractéristique est évidemment très significative dans le discernement spirituel chrétien. Les étrangers se présentent donc comme des tuteurs providentiels de l'humanité, nouveaux messies qui interviennent dans la vie de l'homme pour l'avertir d'un danger, le préparer à accéder à un niveau supérieur de spiritualité. Des créatures disposant de puissances mystiques essaient, pour tromper les gens, de les préparer en démontant leurs idées sur le monde et leur conscience morale. Ils les endoctrinent avec une philosophie spirituelle, entre guillemets, ou une vision religieuse fondée sur l'évolution cosmique de la conscience et la conception impersonnelle de l'absolu. Que ce soit donc des humanoïdes réels, visitant les hommes dans leur véhicule cosmique, ou simplement des démons, les uns et les autres détournent les gens de la vraie religion et du vrai chemin du salut. Et même quand on va plus loin dans l'analyse des messages, on s'aperçoit que les messages des étrangers sont anti-chrétiens. Alors évidemment, ils sont taciturnes pendant de nombreuses rencontres, ce qui ne veut pas dire qu'ils n'influencent pas les humains en les manipulant par exemple par l'hypnose ou la télépathie. Et ils prononcent souvent des discours sophistiqués ou des messages ultra compliqués. On peut les décrire, on peut les évaluer. Ce sont des messages concernant les idées sur le monde. Une sorte d'idéologie, un message philosophique et aussi théologique qui rappelle en principe le message reçu dans l'expérience de channeling, même si le cas en question était sans rapport avec l'ufologie. Ce qui est bizarre, c'est qu'il s'agit ici principalement des idées sur le monde de type Nouvel Âge, ou des idées orientales simplifiées, védiques ou bouddhiques par exemple. Des éléments essentiels de ces idées ont déjà été diffusés par la tradition occultiste de la franc-maçonnerie et de la théosophie d'Elena Blavatsky, liée à la franc-maçonnerie, ayant une influence importante sur le Nouvel Âge, et qui a été une source d'inspiration pour d'autres. Donc la vision du monde qui est propagée par les étrangers peut être résumée en quelques points. Ça, c'est intéressant. Donc, c'est cette question des idées sur le monde, hein, qui, quand on l'analyse, montre bien que ça n'a strictement rien à voir avec la révélation chrétienne. Premièrement, la philosophie présentée par ces êtres montre un certain modèle conséquent qui s'oppose nettement à la science contemporaine, hein, en renvoyant habituellement à la science de l'avenir dont le niveau est déjà atteint par les ufonautes. Évidemment, c'est facile. Deuxièmement, ces idées sur le monde veulent persuader que la vie existe dans l'univers entier. Il y a justement des humanoïdes qui possèdent une conscience et une vie affective qui, en général, diffèrent de la vie affective humaine. On dit parfois, le plus souvent en s'appuyant sur l'expérience, qu'ils dépassent l'homme par leur niveau d'amour. Mais on parle aussi d'une froideur plus grande de ces êtres. Généralement, ils possèdent aussi des capacités parapsychiques développées, télépathie, puissance de l'intelligence, psychokinésie, capacité à faire bouger des objets par la puissance du psychisme. Troisièmement, il s'agit davantage d'avoir une conscience que d'être une personne. Important. Il s'agit davantage d'avoir une conscience que d'être une personne. Les âmes conscientes habitent des corps matériels en transmigrant d'un corps physique dans un autre. C'est quand même assez vieux, ça, comme conception. On trouvait ça chez les Grecs déjà. Selon le processus de l'évolution cosmique de la conscience, en atteignant par degrés le progrès dans la vie spirituelle à travers différentes expériences dans des corps matériels successifs. Il s'agit donc là de la migration des âmes ou de la réincarnation qui s'oppose au dogme de la résurrection. Comme le constate Catherine Lederman, l'ex-leader du mouvement du Nouvel Âge, l'expérience centrale, suprasensorielle ou spirituelle, y est aujourd'hui aussi une certaine migration de l'âme, où on a l'impression de quitter son propre corps et de se mouvoir dans une région qui se trouve hors de notre planète. Selon le père Fuss, c'est la réincarnation qui constitue l'essence de l'expérience spirituelle dans le Nouvel Âge. L'un et l'autre sont vrais et ont lieu ici. Quatrièmement, le progrès spirituel consiste dans le développement de l'amour et de la compassion par rapport à tous les êtres et dans le développement de la connaissance, de l'intelligence et des puissances parapsychiques. On dirait, on serait tenté de dire, bah c'est très bien, hein, développement de l'amour et de la compassion. On s'aperçoit en même temps qu'on est dans une perspective très bouddhiste, orientale. Cinquièmement, les êtres à des niveaux supérieurs du développement spirituel collaborent entre eux dans un système organisé de gouvernement cosmique. À l'opposé de cela, la plupart des gens sur la Terre sont considérés comme des arriérés, excusez du peu, dans leur développement spirituel. Des barbares primitifs, des demi-animaux, etc. À part le corps physique, sixièmement, il existe un corps subtil, formé d'énergie plus subtile que celles qui sont connues de la science contemporaine. Il existe aussi différents niveaux d'existence dans la réalité dite parallèle ou l'autre dimension. Et septièmement, on y confesse le plus souvent la philosophie du panthéisme. Tout est Dieu, en parlant d'un Dieu ou même d'un créateur, mais qui est impersonnel, omniprésent, agissant à travers le monde de la nature. Ce Dieu impersonnel est presque incompréhensible et inaccessible. À l'étape supérieure, ce Dieu est considéré comme l'un, un être éternel, sans dualité, plein de conscience, d'amour et de lumière. L'évolution de la conscience conduit finalement à l'expérience de l'un, à la pénétration en l'un. Donc on se retrouve en terre inconnue. Voilà, donc on pourrait continuer comme ça, mais je vous laisse peut-être travailler par vous-même, parce que sinon on va avoir la migraine à la fin de la soirée. J'ai prévu des verres d'eau avec des Ferragans à la sortie. Je vous propose de prendre la page 8. C'est à leur fruit que l'or que vous les reconnaîtrez. L'angliciste américaine, le docteur Carla Turner, qui pour sa part a fait plusieurs fois l'expérience de l'enlèvement par des ovnis, est une de ces victimes qui disent savoir exactement ce qui leur est arrivé. À son avis, l'état modifié de conscience induit au cours de l'enlèvement empêche les démons de faire une quelconque évaluation, les témoins, pardon, de faire une quelconque évaluation objective de la situation. Dans cet état modifié, écrit Turner, les étrangers peuvent manipuler totalement l'homme et ils le font en prenant le contrôle total de la situation et par conséquent des informations qui se trouvent dans cette relation. Ainsi, ce que nous entendons est soumis à la censure totale de la part des extraterrestres. Tous ceux qui s'occupent de ce phénomène n'ont pas le droit de faire abstraction de ce fait. L'auteur cité n'évalue pas les expériences avec des ovnis à partir d'une position théologique, mais à partir d'une position laïque, de sa propre expérience. Et pourtant, elle recommande quelque chose qu'on pourrait appeler préparation au discernement spirituel. Derrière des messages sublimes et positifs se cache en fait une force réelle, d'origine inconnue, qui dissimule ses intentions. D'où le connaissons-nous? Nous vérifierons ses intentions à leurs fruits. Comme l'écrit le maître du discernement spirituel Saint Ignace de Loyola, l'ange de lumière qui cache ses mauvaises intentions obscurcit l'intelligence par ses manipulations, dissimule ses projets destructeurs, peut être reconnu à la fin de nos pensées et à sa queue de serpent. Dans le chapitre précédent consacré aux ovnis, j'ai écrit qu'un fruit de la rencontre avec les étrangers, c'est une transformation suspecte et soudaine des idées sur le monde et une initiation dangereuse, parareligieuse, pseudo-religieuse, occultiste ou spirite. Il faut mentionner aussi d'autres fruits qui l'accompagnent, comme de bizarres changements de personnalité, la confusion et la désorientation, l'angoisse et le chaos, des signes mystérieux et des blessures sur le corps. De quel esprit cela vient-il? Sûrement pas du bon, même si cela était fait par des mains de cosmites existant réellement. Carla Turner, en examinant les enlèvements par les ovnis pour comprendre le vécu de l'enlèvement qui la concernait elle-même et sa famille, a remarqué que dans le groupe de 21 enlevés, 16 ont rapporté l'augmentation des capacités parapsychiques, 16 des bruits non expliqués chez eux, par exemple des bruits de pas sur le toit, 16 des groupes pardon, des troubles d'électricité non expliqués, par exemple des postes de télé où la lumière s'allumant mystérieusement. 16. L'apparition au cours de la nuit d'étranges cicatrices sur leur corps, comme des traces de piqûres, des bleus et des traces de griffes. 12 ont rapporté des phénomènes de type poltergeist, c'est-à-dire de fantômes. Par exemple, à la maison, des objets apparaissent et disparaissent de façon inexplicable. Elle a remarqué aussi que les 21 enlevés ont tous parlé de voix mystérieuses qu'ils entendaient et qui souvent les appelaient par leur nom, et de sons tels des bourdonnements et sifflements. La plupart de ces événements rapportés font pleinement partie de la catégorie des phénomènes parapsychiques. J'oserais même dire diaboliques. Il faut rapporter aussi que les recherches sociologiques et celles du psychiatre de Harvard, le docteur Mack, n'ont pas confirmé l'hypothèse selon laquelle les personnes qui croient aux ovnis sont avant tout des individus malades, malheureux, ayant tendance à penser en termes simplistes, noir et blanc, marginaux, rejetant la société ou soulignant leur aliénation par des idées extravagantes affichées. Par contre, fut confirmée l'hypothèse que les personnes croyant aux ovnis s'intéressent en même temps aux autres réalités alternatives, telles que l'astrologie ou plus généralement l'occultisme. Ces personnes aussi ont plus souvent affirmé avoir vu un ovni de leurs propres yeux et étaient plus portées à croire vrai des informations diffusées par les médias à ce sujet. Elles étaient aussi plus sceptiques vis-à-vis de l'incrédulité des autorités face à la réalité de l'OVNI. On a démontré aussi que les personnes maltraitées dans l'enfance, et pour cette raison prédisposées à une dissociation psychique, ont une tendance plus forte à reconnaître la réalité de l'OVNI. Voilà quelques éléments. Je suis convaincu de l'importance à la page 8 de ce paragraphe sur Carla Turner qui part de 21 cas et des éléments qui sont donnés comme étant vraiment effectivement à la fois caractéristiques des questions de ces questions d'enlèvement, caractéristiques de phénomènes parapsychiques, paranormaux et aussi diaboliques au fond. Voilà, et on va terminer donc brièvement par une petite présentation du mouvement raélien. Qu'est-ce que c'est encore que ça? C'est quelqu'un qui s'appelle Claude Vorilon, qui est né donc en 1946, avant de devenir Raël. Il veut chanter tout comme son idole Jacques Brel. Il veut chanter. Après un succès mitigé, il s'investit dans une autre passion, le sport automobile. Il devient journaliste sportif. Et il crée sa propre revue, dont la santé financière ne résiste pas au choc pétrolier de 1973. À cette même date, il aurait rencontré au sommet d'un volcan du Puy-de-Dôme des extraterrestres, les Elohim, venus de leur lointaine galaxie pour lui porter un message. Je ne sais pas s'il en a parlé à Valéry Giscard d'Estaing, mais. Afin de lui révéler la vérité, il l'emmène sur leur planète. C'est là qu'il apprend qu'il n'est pas un homme ordinaire, car si sa mère est terrienne, son père est un Elohim, plus précisément le président du Conseil des Éternels, Yahvé. Il est également le demi-frère de Jésus, de Bouddha et de Mahomet. Son véritable nom est Raël, le messager, nouvel ambassadeur des Elohim sur Terre. Son rôle est de diffuser leur message afin de préparer leur arrivée. Plus c'est gros, mieux ça passe. Le mouvement raélien se présente comme une religion sans Dieu. La création, les miracles et les événements de la Bible peuvent tous être expliqués d'une manière scientifique. Les Elohim, au sommet de l'évolution technologique et scientifique, ont découvert le secret de la vie éternelle et du bonheur. Un monde sans guerre et sans violence, lieu d'éternel plaisir, où le travail est sans guerre, pardon, où le travail est assuré par des robots biologiques. Il y a 25 000 ans, ils ont créé l'espèce humaine en laboratoire grâce à la génétique. Progressant sur le chemin de la connaissance, les humains ont peu à peu découvert les techniques de leur créateur, Mais ils en font mauvais usage, notamment la bombe atomique, utilisée pour la première fois en 1945. Cette date marque le début de l'âge de l'apocalypse qui pourrait conduire l'humanité à s'autodétruire au cours d'une guerre nucléaire. D'où la décision prise par les Elohim de faire venir sur Terre le dernier prophète, Raël, né en 1946, en 1 AH, après Hiroshima, du calendrier raélien. Ouais. Citation de leur livre, d'un jour à l'autre, l'homme peut s'autodétruire, seuls seront sauvés de la destruction ceux qui suivent le dernier des prophètes. Bon. Quelle est leur doctrine? La doctrine raélienne s'organise autour de la notion d'éternité, qui caractérise le stade ultime de l'évolution. De celle-ci découle l'organisation de la société, le type de gouvernement, le statut des individus, mais elle est surtout la justification du clonage prôné par Raël. En vérité, tous ceux qui ne souhaitent pas vivre éternellement et qui sont apparemment en bonne santé, et ils ne doivent pas être nombreux, devraient être soignés pour dépression. Plus c'est gros, mieux ça passe. Il paraît important de noter que le système qui va être décrit existe déjà selon Raël sur la planète des Elohim et que cette organisation de la société est destinée à s'appliquer concrètement sur Terre dans le futur. Donc, vie sociale et politique, le modèle social proposé par Raël n'est à aucun point de vue égalitariste. Il propose une véritable hiérarchisation des individus. Selon Raël, et contrairement aux droits de l'homme, tous les individus ne sont pas égaux en droit. La société est dirigée par une élite peu nombreuse, les éternels, qui choisissent par cooptation ceux qui les rejoindront pour régenter la vie des mortels. Tu n'hésiteras pas un seul instant entre les lois humaines et celles des créateurs, car même les juges humains seront jugés un jour par nos créateurs. Car un jour, très prochainement, nous allons pouvoir devenir éternels. Et nous devrons, tout comme les Elohim le font avec leur propre population, sélectionner ceux qui le méritent. Un jury, chargé d'un jugement dernier, devra décider qui mérite d'être immortel et qui doit disparaître. Il se peut que la population mortelle ait des sursauts de révolte et de révolution. Il se peut donc que la vie des éternels sur la Terre devienne dangereuse et qu'ils doivent s'exiler sur une autre planète proche et en faire en quelque sorte une base arrière, la planète des éternels humains. Après avoir organisé la société sur Terre pour qu'elle n'ait plus jamais accès aux technologies les plus avancées, beaucoup trop dangereuses entre les mains d'êtres pas assez avancés spirituellement, ils partiront pour une planète voisine. D'où ils gouverneront la Terre tout en sélectionnant ceux qui méritent d'accéder à la vie éternelle. Le système politique envisagé par Raël, la géniocratie, est tout autant élitiste et antidémocratique. Il s'agit d'un système de gouvernement mondial dirigé par les génies. Seuls les gens dont le niveau d'intelligence à l'état brut est supérieur de 50% à la moyenne doivent être éligibles et seuls ceux dont le niveau d'intelligence est supérieur de 10% à la moyenne peuvent être électeurs. Fait une loi électorale comme on peut. Ce type de gouvernement s'oppose au système démocratique actuel qui est qualifié par elle de médiocratie. Ce sont les gens qui ont une intelligence moyenne, donc médiocre, et qui vont faire la décision lors du scrutin dans la démocratie. Alors, le clonage et l'intégrité physique de l'individu, grâce à la technologie génétique et informatique, les individus pourront dans le futur, selon Raël, télécharger le contenu de leur cerveau dans des ordinateurs. Ils vivront une vie virtuelle et pourront, à l'occasion, réintégrer, pour une durée déterminée, un corps conçu à vitesse accélérée grâce au clonage d'ADN. Le corps physique acquiert donc une valeur insignifiante. Cela entraîne certaines interrogations. Que représenteront alors les atteintes physiques faites aux individus. Le corps n'est-il pas destiné à devenir un simple outil biologique utilisable à merci? L'interrogation persiste quand on se penche sur la vision futuriste de Raël concernant les robots biologiques. Les robots biologiques sont composés de matière vivante, en quelque sorte des êtres ressemblant aux êtres humains, mais qui n'auront pas ce qui fait des humains, à savoir la conscience, l'autoprogrammabilité, pardon, et la capacité de se reproduire. Sans la conscience, sans l'autoprogrammabilité et la capacité de se reproduire, il n'y a aucun problème éthique à créer de nouveaux esclaves. Ils doivent être totalement soumis à leur maître. Il suffira de leur fournir un endroit pour dormir et de la nourriture comme à n'importe quel animal de compagnie. Un autre aspect du concept de corps-objet est toujours observable dans le fait que plusieurs dizaines d'adeptes féminines du mouvement se sont portées volontaires pour être les mères porteuses du premier clone humain créé par Clonada, donc la société raélienne de clonage. Enfin, la science, et en particulier la génétique, sert de prétexte à la mise en place d'une certaine forme d'eugénisme. La criminalité sera également presque totalement éliminée. Tout d'abord, grâce à un dépistage génétique de tous les défauts pouvant entraîner des comportements violents et antisociaux. Il est criminel de laisser naître des enfants qui vont souffrir toute leur vie alors que l'on sait faire en sorte que seuls les enfants génétiquement sains soient conçus. La mise au monde d'enfants porteurs de tares génétiques ne devrait-elle pas être elle aussi interdite comme crime contre l'humanité quand on doit l'empêcher? La vie des adeptes, à l'heure actuelle, l'utopie raélienne n'étant pas réalisée, excusez, les adeptes sont bien obligés de travailler pour assurer leur subsistance. Si leur vie future leur promet un revenu minimum de subsistance, pour l'heure, ce sont les adeptes qui financent le mouvement en versant 10% de leur salaire annuel, auquel il faut ajouter le coût des différents stages et conférences. En cas de problème financier temporaire, des arrangements, bien sûr, sont prévus. Les adeptes ne vivent pas en communauté, mais se regroupent régulièrement à travers le monde lors de stages, notamment les stages d'éveil qui initient à la méditation sensuelle, technique d'harmonisation permettant de communiquer avec les Elohim par l'éveil de tous les sens. La méditation sensuelle. La sexualité joue donc un rôle essentiel au sein du mouvement, aussi bien entre les adeptes que dans les relations du leader avec les femmes. Il a d'ailleurs créé un ordre, les anges, jeunes femmes distinguées par un collier avec une ou plusieurs plumes d'ange, et qui sont entièrement dévouées à Raël. Ce que je vous disais en commençant. Selon Ayat al-Mutassir, dans son livre Les enfants des sectes, pardon, Fayard, 1994, des tentatives de théorisation de la pédophilie reviennent de façon itérative dans les différents écrits de Raël. Il faut donc supprimer les lois faisant automatiquement un détournement de mineurs d'un rapport sexuel entre un individu de plus de 18 ans et un individu de moins de 18 ans. Citation du livre. Tu éveilleras l'esprit de ton enfant, mais tu éveilleras aussi son corps, car l'éveil du corps va de pair avec l'éveil de l'esprit. Ne rien dire à ses enfants au sujet du sexe, c'est mal. Leur expliquer à quoi ça sert, c'est mieux. Mais ce n'est pas encore suffisant, il faut leur expliquer comment ils peuvent s'en servir pour en retirer du plaisir. Citation. L'initiation sexuelle devrait se faire aussi bien par les parents que par les éducateurs ou des guides raéliens. Comment saisir cette initiation par des enfants, par leurs parents, autrement que dans un cadre incestueux? Le problème de l'intégrité physique et intellectuelle des enfants doit également être examiné lorsqu'on aborde les thèmes de l'éducation des enfants, du développement du libre arbitre et de l'accès à la connaissance. Encore une citation, les écoles et les universités deviennent elles aussi totalement inutiles, car les enfants peuvent soit être éduqués par l'informatique et la réalité virtuelle en bénéficiant des cours des meilleurs professeurs du monde, soit recevoir des implants électroniques qui leur communiquent les connaissances dont ils ont besoin. Le nombre d'enfants de cette société future sera d'ailleurs très limité, car les individus auront un choix à faire entre devenir éternels ou avoir un enfant. Ceci pour éviter la surpopulation. Le fait d'être obligé de choisir entre le droit à l'éternité et le fait d'avoir un enfant fera qu'il n'y aura probablement que très peu d'enfants, ce qui aidera encore les gens à se séparer sans problème pour vivre constamment de nouveaux plaisirs avec de nouvelles personnes. Cette nouvelle approche du thème de l'enfance, qui apparaît dans Oui au clonage humain, est peut-être à rapprocher des démêlés judiciaires du mouvement et de l'implication de certains adeptes dans des affaires de pédophilie et d'abus sexuels sur mineurs, qui, nous l'avons vu, semblent trouver une justification dans les textes relatifs à la méditation sensuelle. Raël promet à ses adeptes une vie future entièrement vouée au plaisir. Chaque journée sera une nouvelle succession de plaisirs ininterrompus. C'est simple. Apparemment, le messager a pour sa part, grâce à la générosité de ses adeptes, appliqué ses préceptes dans la vie terrestre. Les autres seront préservés et emmenés avec le guide des guides sur la planète des éternels, où ils jouiront d'une vie merveilleuse d'épanouissement et de plaisir. Ils seront servis par de magnifiques athlètes aux corps sculpturaux, en compagnie d'hommes et de femmes d'une beauté et d'un charme sans pareil et entièrement soumis à leurs désirs. De magnifiques jeunes filles seront la récompense de leur foi. On a l'impression d'avoir déjà entendu ça quelque part. Dans les faits, des dizaines d'anges, des jeunes filles distinguées par une plume portée en collier, prêtes à satisfaire leur prophète. Nous avons un genre de course automobile atomique qui vous passionnerait, confie par ailleurs un Elohim à Raël. Le mouvement raélien a créé une filiale, la Raël Racing Team, une écurie de course financée par des dons des adeptes, permettant à Raël de vivre sa passion et de courir sur les grands circuits automobiles du monde. Plus personne n'ayant besoin de travailler, l'argent tel que nous connaissons actuellement disparaît forcément et fait place à un crédit mensuel dont les gens disposent pour s'offrir ce qu'ils souhaitent. Raël dispose de suffisamment d'argent sans, dit-il, posséder un quelconque compte en banque, ni semble-t-il avoir besoin de travailler pour gagner sa vie. Le rapport 2001 de la Miviludes, la Miviludes, c'est le... Ah,
La
excusez-moi.
mission
La mission
interministérielle
interministérielle.
contre les dérives sectaires.
Ouais. Souligne sur son site interne, Raël réagit en insistant sur les dangers du monothéisme qui, selon lui, pousse au fanatisme et le danger de l'éducation religieuse qui fait des enfants des terroristes de demain. L'ardent défenseur de la religion athée propose de remplacer le monothéisme par la science qui devrait devenir notre seule religion. Mais dans ce cas, comment qualifier ce qu'on peut lire dans la revue interne du mouvement? Mourir pour les Elohim est ce qu'il y a de plus beau sur cette planète. C'est la clé du jardin d'Allah ou de la planète des éternels. Un petit goût de remake là, oui. Il y a hélas peu de chances pour que l'on puisse en Europe mourir parce qu'on est raélien. Je dis hélas car il n'est rien pour moi de plus beau. Citation. Donc ce texte qui vous présente le mouvement raélien est extrait de la revue Bulle, le bulletin de liaison pour l'étude des sectes de 2003. Vous trouverez de nombreuses ressources sur le mouvement raélien, la secte des clones invisibles vers l'orgasme cosmique par la méditation sensuelle, et encore dans Wikipédia, donc au Mans. princesse Luna pourra vous renseigner plus précisément, un des anges de Raël. Donc en conclusion, la problématique ufologiste, sous une forme ou sous une autre, a encore de beaux jours devant elle. Le meilleur reste sans doute à venir. Il semblerait que tout soit fait pour nous abstraire de l'ici et du maintenant, qui est si important dans le christianisme, et aussi pour nous aider à oublier de poser notre regard sur notre prochain et sur la grande valeur de l'homme, sommet de la création divine, de sorte à nous brancher sur des chimères qui n'existent pas. En ce sens, on peut souligner le rapprochement à faire entre l'idéologie ufologiste et puis une idéologie montante dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle le transhumanisme, dont on fera peut-être une conférence l'an prochain. Dépasser l'homme, tel est le projet du transhumanisme. Franchir les limites de l'homme, de son corps, de son intelligence, puis de sa pensée, de sa morale, de sa religion. Faire un homme augmenté. Et le véritable homme augmenté n'est-il pas celui qui a la foi au Christ ressuscité?